à Rencontre Spirituelle aujourd'hui. Je compte vous faire connaître, à ceux qui ne le connaissent pas déjà, un chartreux du XVIe siècle, un grand mystique, qui a eu l'audace, très intéressante, d'écrire une lettre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'adresse à l'âme. Et c'est très beau. C'est devenu un grand classique de la littérature mystique et on l'a souvent comparé à l'imitation de Jésus-Christ. Le nom de ce chartreux, Jean de Landsberg ou de Landsberg. J'appelle son nom L-A-N-D comme l'Inde en anglais, S-B-E-R-G. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Son prénom était Jean Juste. Il est connu sous le nom de Landsberg en français, très souvent, comme une asperge presque, Landsberg, à cause de la grande illustration que sa renommée a donnée à cette ville de Landsberg, dans le duché de Bavière, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, où il est né en 1489. Il a fait ses études à Cologne, où il y a une cathédrale absolument magnifique, et où il a pris très très jeune, je crois qu'il avait 18 ans peut-être, 17 ans, l'habit des chartreux, ce qui est extrêmement difficile, une vie très rare. Sur une quarantaine d'hommes qui peuvent entrer chez les chartreux, il n'y en a qu'un qui réussit à y trouver vraiment sa place. Sa piété exemplaire à ce jeune moine, sa très grande pureté, en ont fait rapidement le modèle des plus parfaits religieux de son monastère. Et par mortification, chose curieuse, c'est bien de l'époque, hein, on est environ vers 1500 quelque chose, avant la réforme protestante, là. Il portait par mortification une cuirasse de fer sur sa chair nue. Et quand on lui demandait des nouvelles de sa santé, qui était parfois un peu chancelante puisqu'il était entré très jeune et que cette vie est extrêmement exigeante, eh bien, il disait « Je suis comme il plaît à Dieu que je sois. Que son saint nom soit béni. » Alors, il a été prieur de la chartreuse de Cantavie dans les Alpes. C'est dans le duché de Julier. Il a travaillé avec beaucoup de zèle à ramener dans l'Église catholique des fidèles qu'il connaissait et qui s'étaient fait les disciples de Luther et de Calvin, puis à retenir ceux qui risquaient de s'engager dans ces voies-là de la réforme protestante. Landsberg songeait à une réforme à l'intérieur même de l'Église catholique. Et il est surtout connu comme écrivain. On est surpris d'ailleurs que, comme il donnait beaucoup de temps à la méditation et à la prière, les chartreux accordent énormément de temps. J'ai vécu, moi, la grande chartreuse, vous savez, on se réveille avant minuit. C'est déjà le lever de nuit avant minuit. Et à minuit, on est en prière pendant 2 heures, en pleine nuit. Et la journée se déroule en prière personnelle, des offices que l'on célèbre seul dans une stalle que l'on a dans sa petite maison, mais aussi ensemble à l'occasion. C'est le silence perpétuel, ou presque. Alors, on est surpris quand même qu'il ait pu composer des ouvrages aussi considérables. On a de lui des paraphrases avec sermons de toutes les épîtres et tous les évangiles de l'année. Des paraphrases aussi avec sermons sur toutes les épîtres et tous les évangiles des fêtes des saints. On a de lui aussi des panégyriques prononcés aux principales fêtes des saints. Ses écrits, rédigés en latin, il écrivait dans un latin assez intéressant, ont été imprimés à Cologne, cette ville dont je vous ai parlé, en 1554. Ça forme 3 volumes, une folio. Avec les écrits sur la pratique intense de la vie religieuse, des écrits ascétiques, eh bien, les ouvrages de ce chartreux donnent 5 volume in quarto dans une autre édition qui a été publiée pour la première fois en 1693 à Cologne. Alors, deux au moins de ces études mystiques ont été traduites en français. La première, c'est La milice chrétienne ou Le combat spirituel. C'est un recueil de diverses instructions dont il croit avoir besoin lorsque, s'étant dévoué à la vie religieuse, il s'imagine d'y entrer comme dans un champ de bataille. C'est ce qu'il dit dans sa préface. Le deuxième livre que l'on connaît, c'est le discours en forme de lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'âme dévote, paru en 1657. C'est une production, dit-on, de la solitude qu'il avait dans ce même couvent de Julier, dans les Alpes. On dit que c'est un fruit céleste de la maturité de son jugement. Dans ce livre, c'est Jésus qui supplie tendrement l'âme qu'il appelle son épouse. Jésus supplie l'âme de ne pas s'écarter de lui, puis de revenir. On peut lire « Que je vous échauffe par la chaleur toute brûlante du sang, que l'excès de mon amour fait encore sortir de mes blessures. » Je vous rappelle toujours, le sang, c'est comme l'âme dans la conception juive et traditionnelle de la mystique. Et dans un autre ouvrage qu'on appelle « Faretra divini amoris », il a des modèles très admirables de prière, d'affection au Sacré-Cœur. Le premier peut-être, il a parlé d'ailleurs, d'images à avoir du Sacré-Cœur. C'était des Sacré-Cœurs, j'en ai un très ancien de cette époque, sur vélin, peint à l'époque, et c'est seulement le cœur avec la croix. Et c'est très beau d'ailleurs, dans toutes très belles couleurs. J'avais acheté ça à Paris pour 100 fois rien, puisque c'était religieux. Aujourd'hui, les choses religieuses, hein, ou du moins il y a 15 ans, c'était très peu recherché. Et dans un autre ouvrage, dans l'exercice au très pieux et très fidèle cœur de Jésus, il déclare ceci, qui est assez beau. « Appliquez-vous à honorer le cœur très tendre de Jésus. Ayez la dévotion de le saluer souvent. Embrassez-le. Entrez-y d'esprit. Ayez-y recours en toute nécessité. Puisez-y consolation et secours de toutes sortes. » Puis il y a une prière adressée au cœur de Jésus, qui est assez belle, très simple. Oh, c'est deux lignes. « Absorbez mon cœur, toutes mes pensées et mes affections, toutes les forces, enfin, toutes les forces de mon âme et de mon corps. » Puis un ouvrage, l'exercice aux cinq plaies de Jésus, qui contient une cinquième prière adressée au cœur. C'est écrit « Par cette blessure, je vous prie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait contre vous. Je vous offre mon cœur afin que vous l'unissiez au vôtre. » C'est quand on a le cœur uni à celui de Jésus que nos pensées deviennent les siennes et les siennes deviennent les nôtres. Il y a un chapitre qui est intitulé « Exercice de la vie et de la passion du Christ en manière de rosaire », composé de 50 articles et d'autant de prières. Ça pourrait intéresser certaines personnes. C'est un chapelet de cinq plaies, ou le chapelet des cinq plaies. C'est les gens qui pratiquent, c'est pareil que ça se pratique encore. À chaque plaie, on commence par une élévation. Et ensuite, une série de 10 prières appropriées qui commencent toutes par « Ô mon Seigneur Jésus, je vous adore. Je vous bénis, je vous rends grâce. » Il est difficile de trouver, même encore aujourd'hui, quelque chose, dit-on, de plus pieux que ces simples prières de l'asperge aux cinq plaies, puis au cœur de Jésus. Il est mort, ce chartreux, il est mort à Cologne, le 11 août 1539, après 30 ans de vie religieuse. Dans un ouvrage publié par les éditions Nouvelle Cité, c'est distribué par Mediapol, c'est toujours, vous pouvez le trouver, une lettre de Jésus-Christ, de Jean de Landsberg, chez Nouvelle Cité, à Paris. C'est un petit ouvrage qui n'est pas très gros, oh, je dis combien de pages, à peu près 150 pages. Et au début, on peut lire que, au XVIe siècle, en Allemagne, Cologne était révérée vraiment comme la Rome des pays germaniques. C'est une ville de saints et de clercs, de prêtres remarquables souvent, d'églises et d'autres institutions religieuses, mais il y avait une part de décadence quand même. Parmi elles, il y avait la chartreuse de Sainte Barbara, dont le prieur était, justement, Jean-Juste Lanspergius, ou Lansperge, théologien et mystique. Ce père Jean a conservé à la chartreuse une fécondité spirituelle soutenue, très très peu commune. Les chartreux n'écrivent pas beaucoup. Donc il a publié, au début, les premières éditions des œuvres de Sainte Gertrude, la grande Sainte Gertrude, qui a, me semble-t-il, été au début de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au XIIIe siècle. Il a publié aussi un grand nombre de polémiques ou d'ascèses, dont il était l'auteur, comme vous avez vu, dans lesquelles on peut voir ce qui unit la spiritualité militante de Sainte Gertrude à celle de la contre-réforme, à son point culminant, car il a vécu au moment de la naissance du luthéranisme et de l'anglicanisme. Le luthéranisme, disons, grosso modo, vers 1520, l'anglicanisme 1533, et lui, il est mort en 1539, hein, vous voyez. L'émotion qu'il met dans ses œuvres a rendu ses œuvres d'Emmanuel extrêmement populaires sur le plan spirituel. Ils ont été traduits dans de nombreuses langues. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une ville importante, donc Cologne, en Rhénanie. Et c'est une région dont la contribution à la spiritualité a été en particulier le mysticisme rhénan de Maître Eckhart. Je vous ai déjà fait une émission sur Maître Eckhart. Il y avait Toller aussi, dont je vous parlerai un jour, et d'autres grands mystiques. Et c'était rempli d'émotions lyriques. Jean de Lansperge évite à la fois les hauteurs de cette mystique, puis la description des replis de l'âme où le Seigneur, Dieu, habite au creux de nos âmes. Au lieu de cela, il se concentre sur les grandes lignes de la spiritualité. C'est beaucoup plus simple avec lui. Hein? Alors, les grandes lignes de la spiritualité, les problèmes pratiques aussi de la vie de prière, parce qu'il s'adresse à un public aussi large et aussi averti que possible. Il s'applique à s'adresser à nous, simples laïcs, comme on dit souvent. Mais nous sommes baptisés quand même et nous devons vivre notre vie spirituelle. Et Jean de Lansperge a été considéré comme celui qui a ranimé les exemples antérieurs de la dévotion au cœur de Dieu, puis par l'utilisation qu'il fait de l'imagerie physique de la passion de Jésus, ses blessures et son sang, ben, il anticipe non seulement sur l'espèce d'imagerie un peu érotique des poètes religieux du baroque, comme le catholique anglais Richard Crash, dont je vous parlerai peut-être un jour aussi, mais plus tard sur l'expression dans le détail de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Nous analyserons tout à l'heure un peu les œuvres et nous allons lire des extraits de cette lettre de Jésus-Christ. Mais alors revenons à Jean de Lansperge. Ses œuvres n'ont pas d'abord été adressées peut-être aux laïcs. Elles ont été adressées à des moniales, mais le fondement de leur enseignement, puis la façon qu'il a de répéter certains points clés, montre son souci d'instruire. Puis autant que d'émouvoir, il veut émouvoir et montrer à des chrétiens qui est où est leur devoir, de quelle façon ils vont rentrer dans le bonheur, le vrai bonheur. Il se montre aussi un devancier, hein, il pose les questions que la contre-réforme, vous savez ce que c'est la contre-réforme, c'est tout ce mouvement qui est apparu au sein de l'Église catholique pour résister à la tentation de se séparer en différentes églises comme on fait les gens de la réforme, nos frères protestants, qui ont cru bien faire en se séparant et en fondant diverses églises. Et alors donc, il pose les questions que la contre-réforme devait tenter de résoudre une centaine d'années plus tard, que des historiens récents ont estimé surgir non pas tant du désir de neutraliser la réforme que du fait de réaliser que l'Europe devait être christianisée, tout simplement. Ce qui était partagé d'ailleurs par les réformateurs, hein, protestants. Le paganisme était probablement le véritable ennemi, hein, la décadence. Puis ils considéraient qu'on devait enseigner au peuple chrétien, puis au clergé, puis aux laïcs pieux, puis militants, les grandes lignes de la foi et de la vie chrétienne que l'on souhaitait gagner. Mais si l'on voulait gagner la multitude, c'est la seule façon de transformer ici. Si le synode ne nous amène pas à enseigner au peuple, au clergé, aux laïcs, militants, les grandes lignes de la foi puis de la vie chrétienne, on va passer à côté. C'est par un enseignement sérieux puis à une pratique intérieure de l'Eucharistie. Quand on est pieux autour de l'autel, l'assistance devient pieux. Les participants à la messe prient. Mais il faut que le prêtre prie, qu'il nous donne le sentiment que Dieu est là, qu'il l'aime et qu'il s'y adresse. Et que l'Eucharistie qu'il tient dans ses mains, c'est vraiment le corps du Christ qu'il adore. Et qu'il nous donne le corps vivant du Christ avec un infini respect, une foi qui le fait presque trembler. En même temps, Jean de Lansperge enseigne une version tardive de la Devotio Moderna, ou si vous voulez, Devotio Moderne, qui est inspirée de Van Ruysbrock. J'ai déjà fait une émission sur Ruysbrock et de ceux qu'on nommait les frères de la vie commune. Cette dévotion était personnelle, centrée sur le Christ. Portait fortement l'accent de la méditation, mais une méditation qui était structurée plutôt que libre. La pratique liturgique ne reçoit pas ici autant d'attention chez lui que la dévotion individuelle à Jésus. Mais les thèmes mystiques éternels, comme l'abandon, l'oubli de soi, la connaissance intérieure de la croix puis de la souffrance sont présents. Il faut dire que Jean n'était pas d'origine rhénane. Il était né à Landsberg, en Bavière. C'est un Bavarois. Êtes-vous déjà allé en Bavière? C'est magnifique. Ah! On se sent très à l'aise en Bavière. Quelle belle région de l'Allemagne, hein? Dans le sud de l'Allemagne. Mais il avait fait ses études à Cologne, il avait fait profession à la Chartreuse à l'âge de 21 ans seulement. Puis il se présente lui-même comme s'offrant spontanément pour laver les habits des frères plusieurs fois par semaine, en plus de son travail de copiste. Ça illustre bien dans la pratique la charité pour Dieu qu'il recommande dans ses manuels. C'est un homme qui mettait en pratique ce qu'il enseignait, déjà tout jeune. Il nous raconte aussi dans ses fragments autobiographiques qu'au début de sa vie à la Chartreuse, il s'est occupé à résumer des méthodes, se débarrasser des vices, les remplacer par des vertus. Ce sont des méthodes qu'il rencontrait dans ses lectures ou ses entretiens. Le plan de ses notes était d'abord destiné à son usage personnel, mais plus tard, comme il nous dit dans une humble phrase utilisée par tant d'auteurs à travers les siècles, voici la phrase, « persuadé par des amis ».« Persuadé par des amis ». Il a accepté de rédiger l'ensemble pour le publier sous forme de livre. Il hésitait, voyait publier. Et au bout de 10 ans, il devient maître des novices, d'une fonction exigeante de former les futurs chartreux. Ça rendait nécessaire toute une structuration encore plus grande des leçons tirées de ses notes, puis de sa propre méditation, puis de sa pratique de la vie monastique, qui était en grande partie silencieuse. Ce souci de l'enseignement était accru par les progrès de la réforme protestante à la même époque, ce qui explique l'extrême précision avec laquelle est soulignée la notion catholique de la foi et des œuvres. Hein, vous savez que ce qui opposait à l'époque les protestants et les catholiques, c'est que les protestants s'appuyaient uniquement sur la foi. Et les catholiques insistaient avec l'épître de Saint Jacques, la foi et les œuvres, les deux vont ensemble. Et Jean est devenu prieur en 1530, puis il va s'installer à la Chartreuse de Notre-Dame des Douleurs, à Vogelsang, à l'ouest de Cologne. Il exerce les fonctions de prédicateur officiel auprès du duc de Jülich, dans la même région. Il publie plus tard les nombreux sermons qu'il avait faits, comme je vous l'ai dit au début, tous ces sermons. Il a écrit aussi une lettre de Jésus-Christ pour une abbaye de Monial, de l'ordre des Prémontrés. Au bout de 4 ans, il est relevé de sa fonction de prière à cause de sa mauvaise santé, puis il retourne à la Chartreuse de Santa Barbara, de Sainte Barbara, la première où il était, pour en devenir 2 ans plus tard le vicaire attitré. Et épuisé déjà, Il meurt 3 ans après, en odeur de sainteté, en 1539, après 30 ans de vie religieuse. La lettre de Jésus-Christ devient l'une des œuvres les plus lues. Elle est parue durant sa vie dans un recueil collectif, puis finalement, séparément après sa mort. Elle a été traduite en espagnol à la fin du XVIe siècle, puis en français, donc au milieu du XVIIe. L'une des traductions les plus connues pendant quelques 300 ans a été la version anglaise, qui a été faite par le bienheureux Philip Howard. Je vous ai déjà parlé du bienheureux Philip Howard, comte d'Arundel et fils du 4e duc de Norfolk, ou Norfolk, si vous voulez. Vous savez que le duc de Norfolk est toujours catholique aujourd'hui? Ils sont demeurés catholiques en dépit de toutes les persécutions de l'Église anglicane. Et c'est eux, le duc de Norfolk, qui est toujours chef du protocole lors des couronnements. C'est son titre. Et c'est pourquoi, vous verrez, s'il y a un couronnement quelconque d'un roi d'Angleterre bientôt, vous remarquerez que le duc de Norfolk ne s'agenouille pas devant le roi ou la reine d'Angleterre qui l'a couronné. Il fait une simple inclination car il est catholique. On le voit dans le couronnement de la reine Élisabeth quand on revoit ça. Alors que tous les autres ducs s'agenouillent, ils sont anglicans. Jean de Landsberg était résolu à réfuter d'importants points de controverse doctrinale. Il utilise aussi les répétitions, d'une manière qui était acceptable pour les lecteurs du siècle passé. On acceptait facilement ça, quand la persécution puis les divisions religieuses acharnées rendent de tels manuels très très précieux pour conserver la foi catholique. Son mélange émouvant de lyrisme, dit un auteur, d'images qui apparaissent soudainement, puis qui sont vivantes, et l'introduction claire de citations de la Bible, le renversement de la peinture de l'âme centrée sur Jésus-Christ sont admirables. Le procédé le plus attrayant de son livre, c'est la présentation comme une lettre de Jésus-Christ lui-même. Cela lui conserve sa valeur de choc, puis les remarques, pas tellement fausses de l'auteur, dans sa préface au manial de l'ordre des Prémontrés, sur l'identification de l'auteur véritable, ne réduisent pas du tout l'effet que ça donne. Puis l'autre procédé, c'est celui du mysticisme des noces, où Jésus est traditionnellement présenté comme l'amant de l'âme. Et l'âme comme son épouse fidèle. Alors ne soyez pas trop surpris quand je vous en lirai tout à l'heure. Jésus s'adresse à nous, hommes ou femmes, au féminin. C'est qu'il s'adresse à notre âme. Et cet aspect souligné, parfois teint un petit peu de l'érotisme, mais c'est pas grave, c'est un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Il faut pas s'en faire avec ça. Et Jean nous rappelle fermement que Dieu est la seule source qui donne à l'âme sa capacité d'aimer et qu'il demande à être aimé pour lui-même. Je le répéter, il n'y a nulle trace de quiétisme chez Jean de Lansperche chartreux du XVIe siècle, qui a écrit une lettre de Jésus-Christ dont je vais vous lire quelques extraits dans quelques instants. Il n'y a pas de quiétisme ni de ce qui pourrait s'approcher d'une espèce d'approbation de l'inaction. Vous savez, les chrétiens qui bougent plus. Ça a causé la condamnation, ça, de manuels de spiritualité du XVIIe siècle, tels que ceux de Molinos et de Fénelon, dont je vous parlerai un jour, parce qu'ils avaient négligé la double notion du salut et des devoirs spirituels de l'homme dans le monde. Jean de Lansperge, lui, préserve les idées mystiques du mariage spirituel, de l'abnégation, du refus de l'amour des choses extérieures, mais il met l'accent sur le néant de l'individu devant Dieu, puis il se hasarde pas dans le royaume des grands mystiques, là, comme Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, les mystiques rénans, etc., dans lequel, ce royaume-là, dans lequel la recherche de Dieu par l'âme doit franchir des barrières de ses capacités naturelles, puis s'embarquer dans un voyage au-delà de la nuit. Donc, le chemin tracé ici par Jean de Lansperche, chartreux, bien qu'il soit pour ceux qui cherchent à être hors du monde tout en y étant de façon transitoire, c'est pas pour les contemplatifs d'exception, mais pour, disons en mots très, très, très traditionnels, le dévot ordinaire. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous aussi. Les soupirs de l'âme et même le feu de l'amour sont requis. Néanmoins, la prudence est non seulement recommandée, mais prescrite. Il insiste sur l'infirmité humaine, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et Jean de Lansperge insère aussi des passages vifs et poignants. Sont un regard tourné sur cette imagerie religieuse de l'humanité souffrante de la fin du Moyen-Âge. Vous savez, on voit, quand on regarde le retable d'Isenheim de Grunewald, vous devez connaître ça, le Christ dans toute son abjection peint par Grunewald. Ce qui a dû paraître singulièrement à propos aussi à Philip Howard, dont je vous ai parlé, condamné sans procès en Angleterre, puis qui taillait un crucifix dans le mur de sa cellule de la tour de Beauchamp. Il devait être muet quand il lisait Jean de Lansperge dans sa lettre, une lettre de Jésus-Christ. Je vous le rappelle, qui est publiée chez Nouvelle Cité. Vous pouvez vous procurer ça chez Mediapol. Voici le texte. « Quand je me tiendrai, c'est Jésus qui parle, quand je me tiendrai à ta porte et que je frapperai, je serai très faible et tremblant de froid. J'aurai grand besoin de toi. Je serai dans l'état où j'étais quand ils m'ont libéré du pilier où ils m'avaient attaché pour me fouetter à cause de toi. Quand je me montre à toi, je me montre sous la forme d'un homme faible, avili et insulté. Je veux imprimer mon image dans ton esprit, comme celle de quelqu'un qui souffre et qui est blessé, de façon à ce que tu me prennes en pitié, que tu me relèves et m'embrasses, et que tu me tiennes dans les bras de ton amour. » C'est une très belle lecture pour le temps de Pâques, hein? Le temps de la Semaine Sainte. Ou encore, pour le temps de Noël, « Je suis né dans une étable près du mufle d'animaux. La chaleur de leur respiration était ma défense contre le froid glacial. On m'a couché sur le foin d'une mangeoire. J'ai été sauvé par le sacrifice de pauvres innocents. Et quand j'étais un enfant, je fus contraint à l'exil, la fuite en Égypte. » Il est clair que ces images n'ont absolument pas perdu de leur charme et de leur intensité aujourd'hui. Dans cette époque de torture indicible et d'indifférence à l'amour de la justice, comme nous sommes indifférents finalement à l'amour de la justice, qui, selon Jean de Lansperge, devrait être la préoccupation du chrétien fidèle, nous, vrais chrétiens, avons-nous vraiment le sens et l'amour de la justice à l'égard des plus pauvres, des plus délaissés? On en fait beaucoup. Les chrétiens, les catholiques font énormément à Montréal, beaucoup plus qu'on pense. C'est souvent silencieux. Des centaines d'œuvres s'exercent. On n'a aucune idée de tout ce qui se fait, mais il s'en fait pas encore assez. Il faudrait s'en faire aussi sur le plan politique. Je vous ferai une émission qui te traitera un peu de ça le lundi saint, à l'occasion de l'anniversaire du décès de Monseigneur Oscar Romero, que nous aimons tous. La peinture que fait de l'Église ce chartreux Jean de Lansperge a aussi un ton moderne évident. Elle est biblique, bien sûr. Elle est orthodoxe, impeccablement orthodoxe, dans le sens de l'orthodoxie de la foi. L'image est étendue à tous les chrétiens, comme membres du corps du Christ, chacun avec ses propres talents. Nous contribuons tous à un seul tout mystérieux, un tout avec un T majuscule. La lettre dont je vais vous lire encore des extraits est reliée à notre propre insistance à voir l'Église comme une communauté. En dépit de ses références à la bassesse, à l'abjection de l'individu, à l'obéissance, puis au danger des impulsions de la nature, la lettre reste dans le droit fil de ce que nous pensons aujourd'hui au XXe siècle. Voici un passage. « Quoique ce corps ait dans l'un de ses membres, cela doit être utilisé au bénéfice des autres. Chacun des membres de mon corps doit partager... » C'est le Christ qui parle. Hein? « Chacun des membres de mon corps doit partager avec les autres les dons que les uns et les autres ont reçus à cause de la communion de l'amour qui existe entre eux. » Et Jésus nous dit, c'est très beau, « Tu n'as rien qui t'appartienne. » Que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Tu n'as rien qui te soit donné à toi seul, c'est-à-dire que tu n'as rien qui te soit donné pour toi seul, mais tout ce que tu as est confié à tes soins afin d'être utilisé au profit de tout le corps de mon Église. Avez-vous bien compris? On ne peut pas ne pas s'engager dans l'Église. On ne peut pas ne pas s'engager auprès des autres. car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est un don de Dieu. Les yeux que j'ai pour lire ce texte, la petite intelligence qui fonctionne dans mon cerveau et qui pourrait s'effondrer cet après-midi, les oreilles que j'ai, le cœur qui bat sans cesse et qui pourrait s'arrêter dans quelques secondes. Tout ça, ce sont des dons. Et mes jambes et mes bras et tout. Oui, tout est don. Il n'y a rien là, ni en vérité dans tout le livre, qui soit absolument hors de propos pour n'importe quelle partie de l'Église de notre temps. Il écrivait à ses sœurs, la vénérable mère et aux vierges de l'ordre des Prémontrés, ainsi au début de son livre. Jean de Lansperge, prieur des Chartreux, souhaite la grâce et la paix. Il dit, je suis assuré que vous, toutes pieuses vierges, conviendrez avec moi que nul ne peut être assez ignorant pour supposer que le discours, l'exhortation qui va suivre, qui est attribuée à notre Sauveur Jésus-Christ, béni soit son saint nom, soit une exhortation qu'il ait prononcée de sa propre bouche, ou qu'il ait divulguée de quelque manière que ce soit quand il vivait sur la terre. Il est bien évident que je lui ai donné ce titre magnifique parce qu'il contient ni plus ni moins les enseignements qui sont véritablement ceux de Jésus. Cela deviendra bientôt clair si vous comparez cette exhortation avec ses paroles réelles et avec ce qu'il nous enseigne en notre cœur. Je n'ai fait que coucher par écrit ce que le Christ nous révèle et que nous sentons qu'il nous révèle dans notre cœur comme s'il nous parlait ou nous écrivait directement. Je passe par-dessus toute cette lettre au monial et j'entreprends, puisqu'il ne reste plus que quelques minutes, un peu de la lettre. Ça commence ainsi. Cette lettre est de Jésus-Christ, Sauveur du monde et Roi du ciel et de la terre, qui est prêt à accueillir tous ceux qui le veulent sincèrement et à les porter dans ses bras miséricordieux. Tout ce qu'il veut, c'est que son épouse, l'âme qu'il aime, et pour le salut de laquelle il a librement souffert la mort afin qu'il puisse être uni, soit parfaitement et sincèrement heureuse. Et ça commence. Ma chère fille, tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Je rappelle, au cas où il y a des gens qui viennent de s'intoniser, il dit, ma chère fille, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, c'est parce qu'il s'adresse à l'âme. L'âme est au féminin. Ma chère fille, tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Je t'ai souvent parlé intérieurement dans le fond même de ton cœur, mais tu ne m'as pas écouté. Par suite, puisque tu ne m'as jamais répondu ni fait ce que je demandais, le grand amour que je ressens pour toi me détermine à t'écrire. J'espère, à tout le moins, que tu ne feras pas d'objection pour lire ce dont tu ne tenais aucun compte quand je te parlais. Peut-être que quand tu auras lu ce que j'ai à dire, cela restera fixé dans ton esprit, de sorte que, où que tu ailles, tu le portes avec toi. Vois-tu, je t'aime tant que non seulement je me suis mis dans toutes sortes de situations dangereuses, mais que j'en ai souffert le résultat et que pour toi je me suis même exposé à la mort. Ce même amour est si fort en moi que je ne peux rien négliger qui puisse aider à te sauver, même si tu ne montres aucun signe qui réponde à mon amour par ton amour, parce que tu es absorbée par des choses superficielles, stupides et éphémères, et que tu es trop prise par les apparences extérieures des choses que j'ai faites, je ne peux toujours pas cesser de t'aimer. Je t'aime tant que je suis toujours prêt à te prendre dans mes bras. Vois-tu, je t'aime bien plus qu'un père ou une mère n'aime ses enfants. Non seulement je veux te donner tout ce dont tu as véritablement besoin, mais je veux te prendre pour épouse. Si seulement tu suivais mes conseils, jour après jour, je te comblerais de bénédictions plus grandes que tout ce que tu pourras jamais trouver dans le monde. Je vais plus loin, parce que c'est un peu long et je trouve ces belles paroles qui m'ont saisi. Ceux qui me servent dans ces dispositions d'esprit, qui me sont unis seulement par amour, et qui me reste fidèle seulement pour me plaire, et qu'ainsi ma volonté puisse être faite à travers eux, ceux-là sont mes amis les plus intimes et les plus fidèles. Quelle sécheresse et quelle désolation dans lesquelles ils semblent se trouver, et quelques tentations qui paraissent les submerger, même s'il semble que je les ai rejetés et abandonnés, ils sont toujours vraiment miens. Parce qu'ils continuent de combattre contre les tentations qui attaquent toujours ceux qui sont en guerre avec ce monde. Et ils ne quittent jamais mes côtés, même si parfois je les abats et qu'il semble que je les punis. Je ne les quitte jamais. Ils ont vaincu leurs passions et bridé leurs appétits pour me plaire, parce qu'ils ont abandonné leur moi propre et se sont donnés à moi seul, assujettis à ma volonté, à mon amour. Je ne peux m'empêcher de prendre possession d'eux, de sorte que je remplis, je nourris et je possède leurs âmes par mes consolations, qui sont 100 fois meilleures, plus pures et plus douces que les plaisirs mondains qu'ils ont abandonnés. Mais, comme je te l'ai souvent dit, et comme je continuerai d'insister, de sorte que tu ne pourras dire que tu ne sais pas, ceux qui recherchent et acceptent des consolations étrangères qui n'ont rien à voir avec moi, et qui ne sont pas du tout en moi, ceux-là ne peuvent pas recevoir le doux réconfort qui m'est propre. Mes consolations sont si douces que tu ne peux goûter leur pureté et leur douceur que si tu ne permets pas au mauvais goût de la saccharine de toucher tes lèvres. Elles sont si pures qu'elles ne peuvent être mêlées avec aucune autre consolation venant des choses que j'ai faites. Mais pourquoi je répète cela si souvent? Pour te rendre plus sage, plus attentive et plus prudente, et qu'ainsi, tu ne m'oublies pas pour de faux plaisirs. Tu peux m'oublier, mais moi, je ne pourrai jamais t'oublier, même si ton salut dépend entièrement de moi, et en aucun cas le mien de toi. Je veux aussi que tu sois toujours avec moi, et étant avec moi, que tu sois heureuse. Je poursuis donc la lecture de l'ouvrage du Chartreux, du 16e siècle, Jean de Landsberg, L-A-N-D-S-B-E-R-G, Landsberg, une lettre de Jésus-Christ, parue il y a quelques années aux éditions Nouvelle Cité. C'est paru en 1984. C'est traduit de l'anglais par Roland Gegenbach. Au chapitre 4, intitulé « La vie contemplative », qui est complètement retirée des affaires et des soucis de ce monde, j'en lis un peu le début, car il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans la solitude et qui sont comme des ermites ou des contemplatifs. Je m'adresse donc à ces gens qui, comme moi, vivent seuls. Reste éloigné des autres autant que tu le peux. C'est Jésus qui parle toujours, dans l'imagination de l'auteur. Reste éloigné des autres autant que tu le peux. Sois toujours seul, à moins que ma cause ou l'amour de ton prochain exige ta présence, parce que quand tu seras toute seule, je me révélerai à toi. La solitude, le silence, la pureté, la simplicité du cœur me préparent une place où je peux venir habiter. Garde-toi donc retiré des autres dans le silence et le calme de ton cœur. Mais quand tu es seul, ne te laisse pas aller à de mauvaises inclinations, ne les écoute même pas, ni les pensées vagabondes ou rêveuses, ni les désirs vains. Je sais que tu es le genre de personne qui cherche toujours les consolations. Tu es toujours occupé de quelque manière, soit extérieurement dans des actions concrètes, soit intérieurement te tourmenter, l'esprit absent, cherchant le réconfort de ce monde, le seul résultat étant que tu te détournes de l'unique nécessaire. Il faut donc, dans nos solitudes de Montréal, dans nos solitudes créées par ce monde étrange d'aujourd'hui, savoir s'attacher à l'unique nécessaire, qui est le cœur même de Jésus-Christ. Au chapitre 22, il est question de la divine providence. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs de la providence qui m'écoutent. Tant qu'il y a en toi quelque inclination qui te tente de prendre plus de plaisir, d'être mieux satisfaite, de recevoir de plus grandes consolations, de ceci plutôt que de cela, Tu continues d'avoir quelque chose d'égoïste en toi. Et tu n'as pas renoncé pleinement à ton moi. Tu dois te conduire en tout avec une indifférence égale. Sans plus de joie ou de peine à un moment qu'à un autre. Et ne dépendre en toute confiance que de ma providence. Cette conduite te procurera la liberté la plus grande, la paix et le repos de l'âme. Ces petites lectures ne sont que le premier paragraphe de chapitres extrêmement intéressants. Car un peu plus loin dans ce chapitre sur la providence, il dit bien « Il est possible que le mal que tu crains et auquel tu t'attends n'arrive pas ou qu'il arrive. À chaque jour suffit sa peine. Quoique je permette qu'il t'arrive, ma providence doit te plaire par-dessus tout. Et tu dois m'en rapporter la louange. Tu dois tenir comme une vérité indubitable que quoi qu'il t'arrive de ce genre, est ce qu'il y a pour toi de meilleur. Que c'était prévu et disposé par ma main pour que cela advienne pour ton être bien. Penser du bien de moi et me faire confiance avec constance, c'est en quelque sorte le moyen par lequel les gens proclament ma bonté. Par conséquent, quand je trouve cela chez des gens, ils me sont tellement agréables que je ne pourrai jamais les abandonner ou tolérer qu'il puisse leur arriver quelque chose de dangereux ou de mauvais s'ils sont fermement résolus à placer en moi leur espérance. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Je peux vous dire que quand, en 1946, on m'a dit de quitter Saint-Benoît-du-Lac, j'ai souffert pendant, mon Dieu, 35 ans, 40 ans. Et je m'aperçois aujourd'hui que c'était beaucoup mieux comme ça. J'aurais dû le comprendre beaucoup plus tôt. J'aurais dû lire ce texte à cette époque. Au chapitre 29, il est dit de ne pas négliger la grâce de Dieu. Et Jésus dit, toujours par la bouche de Jean de Lansperge, chartreux, « Passe aussi longtemps que tu peux à de bons exercices qui t'aideront à élever ton cœur vers moi quand tu ne sens pas ma grâce opérer puissamment en toi. Mais ne préfère jamais tes propres dévotions à mon inspiration. Quand tu as appris à connaître ma volonté, que ce soit par la volonté de ton supérieur ou par ma providence, oublie toutes tes inclinations. Quand tu sens en toi une inspiration claire et franche venant de moi, obéis-moi en te quittant toi-même et en me suivant. Je veux que tu oublies ta volonté propre, même pour ce qui est vertueux et digne de louange, pour que tu comptes entièrement sur moi avec une confiance ferme et complète. Si tu ne peux suivre les prières et les pieux exercices des autres, ne sois pas découragé. Ce n'est pas les pieux exercices des autres que tu dois respecter, mais leurs vertus. Il ne s'agit pas d'aller à la messe 25 fois par semaine. Il s'agit de pratiquer des vertus de charité aussi, de mettre en pratique tout ça. Mais très beau tout ça. Magnifique. Puis, la pauvreté en esprit, c'est si beau. Chapitre 31, il y est dit, « Sois satisfaite de recevoir des éloges ou des condamnations. » Pense seulement que tu mérites d'être blâmé et non pas d'être loué. Tant que tu te plains et que tu penses que tu as été lésé, tu n'es pas purifié de l'amour de toi-même. Tu ne devrais jamais rien prendre comme un mal, à moins que ce soit à moi qu'on fasse du tort. Et le chapitre 32, c'est sur l'amour de Dieu. Si tu m'aimais, dit Jésus parfaitement, si tu soupirais après moi avec véhémence, tu ne penserais à rien sinon à la manière de venir à moi et d'être uni à moi. Tu aurais toujours une telle faim et une telle soif de justice que tu ne serais jamais satisfaite de ce que tu as fait par amour pour moi malgré tous les hauts faits. Et tu te désolerais toujours de voir que tout ce que tu as déjà fait n'a rien été du tout. Ceux qui sont enflammés d'un grand amour pour un homme ou une femme répugnent à se nourrir, à boire et à tout ce qui pourrait bien leur plaire autrement ou qui serait nécessaire pour sustenter leur corps. Ils dépérissent s'ils ne peuvent jouir de la personne qu'ils aiment ou s'ils découvrent qu'ils ne sont pas aimés de retour. Ils se languissent uniquement d'amour et d'amour seulement. Cela les met dans un état tel qu'ils ne peuvent prendre de joie en rien ni trouver de paix à moins qu'ils gagnent l'objet de leur amour. C'est la manière dont on doit m'aimer. ne trouver joie et consolation qu'en moi seul, et rien sinon chagrin et affliction partout où tu ne me trouves pas. Si tu m'aimais comme tu dois m'aimer, tu ne pourrais prendre nul repos avant que tu ne me possèdes. Une soif continuelle, une faim et un désir constant brûleraient dans ton âme, et il ne te serait pas loisible de goûter ni repos, ni paix. Je souhaite que tu languisses d'un tel amour pour moi, et que tu ne désires que moi seul, et que tu haïsses tout le reste. Si seulement tu me montrais un cœur libre de tout autre amour, que je puisse attirer à moi et le transpercer et le blesser complètement de mon amour. Quand un homme aime une femme, il faut qu'il l'aime en Jésus-Christ. Quand une femme aime un homme, c'est en Jésus-Christ. Et nous devons aimer nos enfants en Jésus-Christ. Et nos prêtres doivent aimer leurs fidèles en Jésus-Christ. Les religieux et les religieuses s'aiment en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on trouve la paix et la joie, la tendresse, la vérité. Je vous rappelle le titre, une lettre de Jésus-Christ parue chez Nouvelle Cité de Jean de Landsberg. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez comme d'habitude à Marc-Alexandre à 374-3785. 374-3785. Même à minuit ce soir, il sera à l'écoute après la reprise de 23 heures. Demain, il sera question du père Laurent Pilon, un clerc de Saint-Viateur, un Québécois mort il y a à peine quelques années, en 1993. Il a été missionnaire en Chine pendant 13 ans, de 1940 à 1953, donc pendant la persécution, pendant la guerre. Et après-demain, il sera question du père Léon Dehon, cet homme admirable, mort en 1925, fondateur de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, qui est né un 14 mars 1810. Je vous rappelle que dans Jésus-Marie et notre temps, vous trouvez en page 17 ce mois-ci la liste complète des rencontres spirituelles du mois de mars. Si ça vous intéresse, vous pouvez les consulter.